À Kinshasa, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la femme rurale. C'est une journée qui est célébrée chaque année, hein, le 15 octobre. Justement, aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. Il faut savoir que partout dans le monde, les femmes rurales jouent un rôle majeur dans la sécurité alimentaire, ainsi que dans le développement et la stabilité des campagnes. Et pourtant, leur statut ne leur permet souvent pas de jouir des droits fonciers ou d'accéder à des services vitaux comme le crédit, les intrants, la vulgarisation, la formation et l'éducation. C'est peut-être pour faire face à cela que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, vient de consacrer l'année 2008, année pour la promotion de la culture de pommes de terre. Plusieurs programmes sont prévus, entre autres, l'appui du projet Horticulture. Il faut savoir que l'objectif poursuivi par la FAO est de réduire la pauvreté et de rendre ces tubercules accessibles à toutes les bourses. Fatima Poukou s'est justement rendue avec la FAO à Bantanongo dans le Bas-Congo, hein, pour voir comment les femmes rurales du Bas-Congo
arrivent. Et les hommes également arrivent à cultiver cette pomme de terre.
Alors, parce que Cathy, puisque vous êtes rentrée maintenant à Kinshasa, pouvez-vous nous présenter les territoires de Bantanongo et qu'est-ce qui a motivé justement la FAO d'expérimenter la culture de la pomme de terre dans cette partie de la République?
Situé à près de 154 km de la ville province de Kinshasa, Bantanongo est une localité située dans la province du Bas-Congo, anciennement connue sous l'appellation des Six Îles. La ville se trouve dans une zone constituée de collines et de vallées. Au plan administratif, cette ville est donc le chef-lieu du territoire des Cataractes. Pour répondre maintenant au deuxième volet de votre question, le choix de cette ville pour l'expérimentation de la culture de la pomme de terre est consécutif à son climat qui est différent des autres villes du pays tel que Kinshasa. Selon nos sources, Bantanongo se situe à 800 mètres d'altitude, c'est ce qui fait que le climat de Bantanongo soit favorable à cette culture agricole.
Parlons justement de la culture de la pomme de terre, parce que la FAO justement a dédié cette année à la promotion de la culture de la pomme de terre. Qu'est-ce qui fait que, qu'on puisse cibler en fait le territoire de Bantanongo?
En fait, nous avions effectué le déplacement de Bantanongo la semaine dernière, du 10 au 11 octobre dernier, où nous avons visité plus d'une trentaine d'arbres qui comptent le périmètre maraîcher des moines Kintende, à environ 12 km de Bantanongo. C'est donc sur ce site que se trouvent les champs écoles paysans où se fait l'expérimentation de la culture de la pomme de terre par les agriculteurs encadrés par les projets UP, initiés par le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, en partenariat notamment avec la FAO. Parce que la dite Agence des Nations Unies pour l'alimentation consacre cette année à la promotion de la culture de la pomme de terre, comme vous l'avez dit précédemment.
Donc vous, lorsque vous êtes rendu à Bantanongo, c'était la
première. Je vais vous voir réellement si ces projets-là évoluent bien, les projets de la culture de la pomme de terre, tels que dédiés par la FAO.
Et est-ce que ça a réussi?
Effectivement, nous sommes allés assister à la récolte des pommes de terre produites pour la saison agricole A. Quant à la production, disons qu'elle a réussi, mais cependant, il faut révéler que la culture de la pomme de terre repose sur certains préalables qu'il faut strictement respecter. Selon nos sources, d'abord, il est souhaitable de planter ces tubercules sur un terrain d'ouverture, c'est-à-dire sur un site qui n'est pas encore exploité. Au cas contraire, il faut fertiliser le sol pendant au moins 5 ans d'école. D'autres précisions avec M. Bruno Kiatingé, il est conseillé au projet E.
8 kg par arbre. Donc, dans un hectare, nous pouvons arriver à 800 kg d'engrais NPK par hectare. Mais dans un arbre, nous pouvons prendre 8 kg par arbre. Alors, cet engrais de fond, comment il est fait? Donc, d'abord, dès qu'on a fait un emplacement pour mettre la tubercule, il faut d'abord mettre de l'engrais, vous couvrez avec un peu de sol et vous mettez votre semence de pomme de terre. Mais là, il faut faire attention, il faut que le germe soit au-dessus. Hein, il ne faut pas inverser les germes de la pomme de terre. Et à ce moment-là, vous recouvrez et vous commencez à arroser. Il faut commencer à arroser, savoir comment ça va sortir. Et puis les entretiens, il faut sacler bien entendu. Il faut apporter de l'eau. Et il faut à 3 semaines après ou 4, entre 3 et 4 semaines, la pomme de terre commence à faire des tubercules. À ce moment-là, vous devez faire le bitage. Vous bitez et vous continuez à arroser pendant la tubérisation. On a besoin de beaucoup d'eau. À ce moment, il faut apporter aussi une bonne quantité d'eau. Et puis après, on arrive à deux mois et demi. Vous pouvez remarquer que votre pomme de terre sont suffisamment tubérisées. Et à ce moment-là, vous pouvez défaner, comme vous le voyez là-bas. Là, on a défané, on a enlevé les feuillages. C'est pour mûrir davantage la pomme de terre, pour que la peau se colle avec la chair. pour qu'on ait des pommes de terre de qualité qui peuvent résister aux manipulations. Et aussi, ça permet aussi d'avoir un bon goût.
Voilà, donc toutes ces explications, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus avec nos invités tout à l'heure, parce que là, on a suivi un responsable, c'était...
Bruno Kiatzinger.
Bruno Kiatzinger, qui est justement chef de projet. Hein.
Oui, ingénieur agronome à la fois.
Oui. Alors, bon, évoluons sur la question, parce qu'il beaucoup, parce que nous savons que les pommes de terre qu'on retrouve à Mandamou sont des petites pommes de terre, de petites dimensions, hein, je crois.
De petites dimensions, mais aussi les pommes de terre de grandes dimensions.
Il y a aussi les pommes de terre de grandes dimensions. Oui. Mais ce que vous avez vu, c'était les deux.
Les deux à la fois.
Alors, évoluons sur la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. Est-ce que les paysans, est-ce qu'ils maîtrisent bien, en fait, toutes ces techniques que vient de nous expliquer M. Bruno Kiatzinger?
Effectivement, Nicole, à en croire les quelques paysans à qui nous avons tendu le micro dans les 10 grands champs d'école que nous avons visités, ils sont bien assimilés les techniques culturelles de la pomme de terre. Et ils se disent prêts à tenter l'expérience si les moyens le permettent, parce que la culture de la pomme de terre, ça, il faut le savoir, implique beaucoup de moyens d'école. Les semences sont importées de l'Europe. Ces paysans nous témoignent les techniques apprises dans cet entretien.
Chez nous, nous avons une animatrice, c'est celle qui conduit toutes les techniques de la pomme de terre. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est rentrée en Mazan pour aller se provisionner. Comment planter la pomme de terre et puis comment gérer les ressources humaines, les ressources financières et matérielles?
Na chère école, la fête du sol, il y a la pomme de terre. Tout d'abord, soit du terrain, après, plantation. Et arrosage, toutes ces histoires-là. En tout cas, c'est la première, toute première fois qu'on a eu ça la communauté.
On a longo, les associations à Meril, on a eu la défanage pour la pomme de terre et Zouagou.
Voilà, donc UP les encadre, il faut quand même expliquer hein, ce que c'est que UP. UP, c'est le projet horticulture urbaine
et périurbaine. Voilà. Donc, initié par le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage.
Voilà. Et rappelons également à nos auditeurs qu'aujourd'hui, c'est l'année consacrée en fait comme.
À la pomme rurale. Bon, voilà. Consacrée à la culture de la pomme, à la promotion de la culture de la pomme de terre par la FAO.
Mm-hmm. Bon, alors parlons justement de la pomme de terre. Il y a des petites précisions qu'il faudrait apporter à ce sujet. À Madravongo, nous avons également été là-bas, hein, Tati. On a constaté qu'au marché, on vend souvent les petites pommes de terre. C'est ce qu'on retrouve hein, pour la plupart dans les marchés. Mais grâce à la FAO aujourd'hui, nous avons quand même l'impression que la dimension des pommes de terre va changer.
En fait, la production s'est améliorée maintenant parce que en fait, les pommes de terre des petites tailles qui l'entrent sur le marché sont les États-Unis privés. Mmh. Avec l'assistance du projet IP, maintenant, ces femmes-là, ces agriculteurs-là parviennent à produire les pommes de terre de bonne qualité. Donc, une dimension plus ou moins grande que les pommes de terre trouvées dans les marchés.
Voilà. Donc, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le pays qui peuvent aussi participer à cette émission en réagissant au 081 070 2050 pour poser des questions aux spécialistes que nous allons recevoir dans un instant. Si vous souhaitez témoigner directement, alors là, il faut nous appeler hein, au 081 890 63 94. Tati, nous pensons que les paysans s'organisent pour l'acquisition des semences parce que la pomme de terre est mine de rien généralement importée hein, de l'Europe.
En fait, la FAO par les canaux du projet de la relance de l'horticulture urbaine et périurbaine assiste les producteurs maraîchers à hauteur de 70%. Les paysans contribuent à hauteur de 30% pour acquérir les semences qui sont importées de la Belgique ou de la France. Ce qui implique les frais de transport et souvent, les semences arrivent toujours en retard. Or, en agriculture, pour avoir une bonne production, il faut tenir au respect de la saison favorable pour les produits à cultiver. Ces paysans nous ont révélé quelques difficultés rencontrées dans les cas de l'acquisition des semences. Écoutons-les.
Mon est déjà, il peut accompagner un peu, petit peu, microcrédit. Le microcrédit, on a écouté, il prend un achat de semences. L'année passée, tout son bas semences, donc il n'est à rien, à quelque chose d'attendre un kilo. Donc c'était au-delà de 1000 et quelques dollars. Et quoi, il y a un an au sous. Tu sont 1750 kilos, mais tu n'as pas 160, 8 heures, donc tu peux de son bon modèle. Donc, tu as dit que tu as mingi parce que nous croyons que c'est un mieux.
La question est de ce crédit, après crédit, il y a un membre qui a été fait. Ce talent de la petite 3000 dollars, la petite association. Donc, maintenant, l'association, maintenant, a dit que kodesha bambongo na ba na bamambi bamambi wale bazozo usambongo na na vikili TV ya kituo kwa mwa tuwa dolari elawo kwa tamu la bime nerba yuko pesa biso kwa ba ba institution ya kupesa kwa bambongo poko kwa zoba komite na Belgique mbongo niyo sisa wato kisi kwa kena ngo biloko bazozo kina kisa yao kufa kufa ndenye na aderini kisa yaki 1030 kilo Mwenye lere ye, tupesi mbongo ya mili ya 1030 kilo. Mwenye mbongo ye, lere biloko ye, toyo kotriye kaka, 180 kilo, ye sa bien.
Voilà, donc, mine de rien, ça coûte cher, hein.
Ah, ça, ça, ça coûte cher parce que, en fait, les semences sont importées. C'est un produit qui n'est pas d'usage courant ici, donc, c'est un produit importé, ce qui fait qu'ils doivent se contribuer pour faire la commande.
Vous avez vu ces semences?
Bon, moi, j'ai pas vu parce que je suis allé pour la récolte, je suis allé pendant la récolte, je suis pas là pendant que j'ai longtemps en train de connaître, qui est en train de planter.
Oui, c'est voilà. Ça. On va revenir là-dessus avec notre invité. Alors, pour contourner la difficulté rencontrée dans l'acquisition de ces semences qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce que ces paysans proposent comme solution?
En tout cas, tous proposent, en fait, tous prônent pour la mise en place d'une structure permettant aux maraîchers d'avoir les semences à un prix raisonnable et au moment opportun parce que en agriculture, on a affaire à des saisons. Si vous dépassez la saison, vous n'aurez pas les rendements attendus. C'est pour cela que ces paysans proposent la création d'un centre de recherche à l'instar des l'INERA. Écoutons-les.
Le gouvernement, normalement, chaque fois, il y a des semences qui sont placées. Alors, quand vous lisez le livre de l'ONU,
Donc, lorsque ces paysans demandent à ce qu'on crée un centre de recherche, il faut doter aussi ces paysans des moyens qui vont leur permettre de se développer dans leur milieu, qui sont d'encourager les oeuvres rurales, hein, je pense.
De décourager les oeuvres rurales, parce que, en fait, ce point de vie est notamment partagé par plus d'un paysan l'école. Pour juguler la crise alimentaire qui touche déjà certains pays, il faut doter aux paysans des moyens conséquents pour permettre à chacun de se développer dans son milieu. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays, suivant les commentaires de ces cultivateurs à ces sujets.
Et puis, bon, on va peut-être avoir une association. Et là, il suffit. Si vous avez 40 personnes, vous avez 3 000 $. 3 000 $, ça ne sert à rien. Pas même le coût de manger. Donc, la fonction est comme ça. Et je suis sûr que tu dis, le coût de manger, bon, on va peut-être ça ne va rien. Et au contraire, parfois, tu as comme ça, Bangala. Parce que si 3 000 $, 40 personnes, comment maintenant, si y a mon Dieu, bon. Mais dans les pays d'Europe, c'est le développement rural et comme ça dans les pays. Mais où il y a du sens de monnaie, ça c'est car mon goût, il va peser dans les paysans, et il m'a dit, ça c'est fait. Donc, pour n'avoir pas que ça passe, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Est-ce que vraiment la bataille d'Europe, développement est en blanc de que à partir il y a 4 jours le niveau de développement il faut y avoir en base pas même $50.
Voilà. Je ne sais pas, on ne peut pas critiquer ça.
C'est son point de vie qui est fondé par quelqu'un de terrain, c'est lui qui vit ça. Donc,
Et il n'a pas tort, hein, peut-être. On nous a suivis, les experts nous ont suivis, et certainement qu'ils vont répondre à ces paysans. On va s'arrêter là, pour donner la parole à nos invités, Tati.
Merci, Nicole. À la prochaine.
Au Capi, Actu, pour la paix.
Nous recevons dans ce studio Lambert Louteté, consultant spécialiste en racines et tubercules à l'FAO. Bonjour Lambert Louteté.
Bonjour.
Nous avons également Dr Ali Ramazani, secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Bonjour Dr Ali Ramazani.
Bonjour Madame de Radio Capi.
Merci d'être là pour nous éclairer sur cette question. Alors, on va directement donner la parole à vous, hein, Dr Ali Ramazani, avant de revenir sur vous en tant qu'expert. Lambert Louteté, parce que tout à l'heure on a suivi les réactions des paysans, ils se rendent compte que le ministère de l'Agriculture c'est comme s'il ne les assistait pas vraiment. Comment expliquer aujourd'hui qu'on arrive à importer les semences d'ailleurs alors qu'on pourrait éventuellement les produire ici sur place, hein, Dr Ali Ramazani?
Oui, merci beaucoup madame pour la question, et cette préoccupation est tout à fait légitime de la part de nos partenaires qui sont sur le terrain. C'est vrai que nous avons avec la FAO des projets YIP et aussi avec le projet, donc le centre agro-vétérinaire tropical de Kinshasa, CAVTK, nous avons fourni des efforts en regardant ce qui se passe au niveau de Mazangungu, qui est un point tout à fait à côté de Kinshasa, moins de 200 km, des efforts que font les maraîchers et tous les producteurs du coin, et à voir la qualité de ce que ça donne comme pomme de terre, nous avons mis en place l'idée donc de secourir, donc de, d'abord d'expérimenter, parce que comme vous l'avez dit, nous avons entendu, les pommes de terre produites dans les sites de Mazangungu sont de petite taille. Mmh. Ce sont des pommes de terre qui sont dégénérées, parce que ce sont les mêmes semences qu'on a dit réutilisées plusieurs fois, et donc la pomme de terre a perdu, donc de Mazangungu a perdu sa taille initiale pour devenir de toutes petites, mais tout en gardant un aspect très positif, c'est les saveurs. Donc on ne peut pas oublier ces facteurs-là. Et que nous avions tenté l'expérience avec, d'abord, en important un lot de semences de pommes de terre avec l'appui de l'aviation de l'armée belge. Donc nous avons pu profiter de ces avions pour amener les semences jusqu'ici. Nous avons pu travailler à Kolofuma et avec quelques partenaires dont vous avez entendu parler là-bas. Mmh. Et on a produit des semences avec des tailles tout à fait comme on le fait en Europe, en Afrique du Sud et même en Chine là. Alors, donc, maintenant, le problème c'est quoi? Et nous avons tenté, ça c'était, nous avons porté de l'argent qui était gratuit. Et puis, par après, on devait utiliser les sources que, si nous, la FAO, le ministère s'est détaché aujourd'hui, que les paysans puissent voir comment on peut utiliser la même routine en utilisant la voie de surface qui est la voie du bateau. Mais ce que nous avons pu remarquer, c'est que nous avions importé à pratiquement 11 tonnes, mais il n'y a que 1,5 tonnes qui étaient récupérables. Le temps que le bateau a fait sur l'eau, le temps de douaner, le temps, il y a eu beaucoup de, donc, plus de, donc, de
80%. Alors,
l'idéal serait de produire des semences sur place. Mais ce n'est pas une mince affaire, madame, de, que de mettre en place une structure de production de semences de la pomme de terre.
Ce n'est pas une mince affaire.
Oui, donc, les études sont là. Nous sommes en train d'abord de mettre en place toute une unité de production de semences, mais ça nécessite des moyens pour fixer la variété, pour avoir toutes les conditions possibles pour garder les semences à température idéale, et aussi, non seulement d'amener les semences de l'extérieur, mais de recourir encore à nos semences qu'on utilise en Mazangungu.
Oui, mais docteur Ali, parce que nous savons que la partie est du pays a déjà fait l'expérience autour de la culture de pommes de terre. Pourquoi ne pas utiliser simplement les semences utilisées notamment à l'est, à Goma et à Bukavu?
Chaque site a sa spécificité propre. Hein. L'altitude qu'on trouve vers les Nord Kivu est tout à fait différente de ce qu'on peut trouver au niveau de Mazangungu.
Mais est-ce qu'on a déjà tenté l'expérience?
Bon, on a fait d'abord au niveau de Luotu, c'est là où on produit vraiment beaucoup de pommes de terre. Nous avons, pour fixer les pommes de terre qui étaient là, on importait les semences à partir du Canada. C'est de là que nous avons importé les semences. On a pu travailler et les gens de là se sont adaptés aussi à faire venir des semences d'autres pays de l'Europe.
Docteur Ali, mais pour ceux qui nous suivent à travers le pays, ils ont trouvé tout de même aberrant d'importer les semences d'ailleurs, de si loin du Canada, alors qu'on pourrait éventuellement les produire sur place aujourd'hui. Nous célébrons d'ailleurs la journée mondiale de la femme rurale. Vous savez, il y a beaucoup de paysans aujourd'hui qui vivent dans une pauvreté qui n'a pas de nom, alors qu'il y a quand même un ministère de l'agriculture et pêche et élevage. Qu'est-ce que vous, à l'occasion de cette journée, vous comptez faire pour redorer tant soit peu le blason du paysan congolais?
Oui, madame. Vous savez, la pomme de terre n'est pas d'origine africaine. C'est une culture qui vient des États-Unis, des Amériques. Donc, c'est normal qu'on puisse revenir à la source pour avoir de la pomme de terre de qualité. La pomme de terre n'a jamais été, par le passé, un des produits de spéculation qui était fixé par l'INERA comme étant une nécessité par rapport au manioc, par rapport à d'autres cultures. Alors, il fallait qu'on donne à l'INERA cette possibilité, donc, de prendre et de faire des recherches site par site et voir de quelles variétés qu'on peut utiliser dans ce site-là pour avoir de bons rendements et de bons résultats. Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire, il faut arriver à obtenir des rendements qui soient tout à fait satisfaisant et permettre à celui qui opère cette activité de puisse revenir à ses fonds. Donc, on n'a pas eu au niveau de l'INERA donc de grandes recherches de fixer des variétés de pommes de terre, il y en a beaucoup, pour pouvoir l'utiliser localement. Ça, c'est un fait. Maintenant, nous sommes entrés avec le CRVTK, avec l'unité de Jambou, nous sommes entrés de voir comment nous pouvons monter en Bazangou nous-mêmes et une unité de production de semences.
Donc vous comptez le faire, vous comptez vraiment monter.
C'est dans le programme, madame, c'est dans le programme.
Ça pourrait se concrétiser quand exactement?
Donc nous sommes encore entrés dans la phase de négociation, parce que vous savez, ce n'est pas seulement Bazangungu. Nous avons mené avec le CRVTK des essais aussi au niveau du plateau de Bateke. Et ça a donné aussi de bons résultats. Donc c'est ce qui prouve pour amener le bailleur à financer un secteur, il doit avoir les rendements donc la viabilité du projet.
Oui, monsieur le secrétaire général, Docteur se pose la question, qu'en est-il avec le projet Pressa? Parce que depuis un certain temps, on est sans ignorer que ce projet accompagne l'INERA parmi les priorités. Est-ce que le ministère de l'Agriculture n'avait pas pensé mettre ce projet, et surtout que la FAO vient de penser que c'est l'année 2008, et c'est bien que c'est à son retard aussi, année 2008, année dédiée à la culture des pommes de terre. Est-ce qu'au niveau de Pressa, on n'a pas imaginé, on n'a pas pensé vraiment outiller l'INERA à faire des recherches autour de ça?
Non, nous avons deux projets. Il y a le Pressa qui est dans les Bekassa et le Katanga, et nous avons le Pressa qui est dans le Bazangungu, et le Bakongo et le Bandundu. Je crois que vous voulez parler du Pressa.
Oui, Pressa.
Ce projet-là, c'est vrai. Bon, écoutez, les projets, quand ça arrive, quand nous sommes en train de monter les projets, nous allons maintenant avec le thème, le système participatif. C'est au niveau local qu'on précise les besoins. Le projet Passar vient de commencer il n'y a pas très longtemps, et il est en train de s'implanter maintenant dans le site du Bas-Congo. Donc c'est là où on va délocaliser le projet de Kinshasa pour avoir les sièges dans la province du Bas-Congo. C'est à partir donc de spéculations qui ont été retenues par les études et qu'on peut aller au-delà de ces spéculations selon les besoins du terroir, et on va voir dans quelle mesure donc parce qu'avec les linéaires,
oui, les besoins sont déjà exprimés et il ne reste qu'au niveau du ministère vous puissiez orienter le projet par rapport à ces besoins.
Non, écoutez, ce n'est pas encore définitif, quoi. Il ne faut pas être beaucoup très précis comme ça, parce que avec l'INERA, nous avions eu des engagements pour la production de semences de pré-base et de base, qui vont donner les semences commerciales.
Donc,
la pomme de terre n'était pas reprise comme étant une semence à retenir dans le cadre de ces projets-là.
Tout à fait. Docteur Ali, on a également dans cette émission, comme invité dans le studio, Lambert Loutetti, on va aussi lui donner la parole.
Je connais bien, je salue.
Restez en ligne, s'il vous plaît. Oui. Alors, Lambert Loutetti, en tant que consultant spécialiste en racines et tubercules à la FAO, donc la FAO a eu à assister les paysans. Vous avez suivi tout à l'heure quelques réactions, 3 000 $ par-ci, 4 000 $ par-là, pour une association de paysans constituée de 40 personnes. Ils se plaignent, hein. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces paysans?
Ils ont vraiment raison de se plaindre au vu des inputs pour arriver pratiquement à installer cette culture. Parce que vous savez, au niveau de la production de la pomme de terre, il faudra normalement, au niveau des Mbandangongo, comme dans certains sols, préparer d'abord les sols en préparant les billons. Et après avoir fabriqué des billons, déjà si vous utilisez la machine, on ne va pas vous demander moins de 280 dollars par hectare au niveau du Bas-Congo, dans la préparation de sol. Et la semence, même quand vous en avez, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre pour la mise en place. Donc, en fait, ils ont raison, mais le problème, c'est le fait qu'au niveau aussi du budget, il y a une certaine limite et les objectifs atteints, ce qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà. Et je pense que dans chaque projet qui se présente, il y a un budget. Et c'est à partir de ce budget-là qu'il faut déterminer.
Le budget, il est à combien pour les entreprises dans le domaine des pommes de terre?
Non, il n'y a pas vraiment une marge qui a déjà été décidée. Ça, c'est par rapport à l'appui qui avait été fait par FAO au cours de la campagne. En fait, maintenant, c'est question dans les projets qui peuvent venir plus tard de reconsidérer les déclarations du paysan pour voir si l'on peut faire une certaine amélioration.
Oui.
Le comble, c'est le fait qu'au niveau du gouvernement, vous savez que tous les fonds que nous utilisons sont des fonds qui viennent pratiquement des partenaires internationaux. Mais s'il y a des projets qui sont montés au niveau local, et avec, je pense, les déclarations des paysans, la possibilité de prendre en compte.
Oui, mais juste par curiosité, parce que ça intéresse pas mal de gens, hein, il faudrait quand même qu'on voit clair. La FAO a eu à débloquer combien pour ces pommes de terre? Parce que là, c'était un projet que vous avez initié, non? Et vous avez débloqué combien?
Madame, je pense que c'est vraiment difficile que je vous dise exactement le montant qui avait été débloqué. Mais je pense que tout ce que nous connaissons, c'est en fait l'assistance qui a été donnée à chaque paysan, comme vous l'avez dit.
Oui.
Je pense que le paysan a largement parlé de ça.
On ne peut pas revoir le montant de.
Dans ce cadre, ce projet-là, c'est très difficile parce que le budget était déjà limité.
Monsieur le maire, est-ce que c'est juste une curiosité? Le projet EUP est-il un projet pilote ou c'est pratiquement la FAO qui s'engage d'une manière durable pour aider tant soit peu les paysans du Bas-Congo?
Je pense que le projet est en élaboration. Ça, ce sont pratiquement des travaux préliminaires qui ont été menés dans ces différents sites pour voir ce qu'il y a de disponibilité, d'abord s'il y a déjà une certaine sensibilisation, si ça, la population est informée et que s'il y a un besoin pour faire la pomme de terre. Parce que comme vous le savez, au niveau du Congo, la pomme de terre n'est produite pratiquement qu'à l'est,
oui,
et dans le Congo, dans certains pays. Et toute la pomme de terre qui vient, c'est comme l'avons entendu, c'est de la pomme de terre qui est
importée. Mais quel est le résultat que vous avez obtenu? Parce que c'est une phase expérimentale, mais déjà, je crois que vous avez eu à évaluer l'évolution de ce projet.
La première récolte, ça vous donne quel nom?
Mais je pense que le paysan a dit ici que la production était assez satisfaisante.
Mais vous, en tant que spécialiste, vous êtes mieux placé, non?
Oui, mais c'est ce que je vous dis. Parce qu'avec les introductions qui étaient faites, je pense que le docteur Ali, le secrétaire général, vient de le dire que nous avons pu changer les calibres même des pommes de terre.
Pour de grandes pommes de terre, maintenant.
Maintenant, on a pu avoir des pommes de terre dont le poids varie de 500 et de 50 grammes à 500 grammes. Exactement comme les pommes de terre qui sont produites dans les pays tempérés en Europe. Donc maintenant, le grand problème qui est là...
Vous avez parlé de la qualité, mais la quantité maintenant de production. La production est faible.
La production est faible, oui. C'est parce qu'il faut aussi voir quelles sont les superficies qui ont été mises en valeur. Normalement, un état de pommes de terre, quand c'est bien fait, vous avez un rendement qui varie de 12 tonnes. Vous allez jusqu'à 25 tonnes. Si les conditions sont bien...
Et puis c'est aussi un peu de votre faute, hein. Tout à l'heure, on a suivi un paysan qui nous disait que comment expliquer que la FAO nous distribue des semences aux mauvaises périodes. Vous ne ciblez pas les bonnes périodes de l'année, hein, pour distribuer ces semences.
Donc ça semble juste après la saison agricole.
Mais non, mais parce que la semence a été importée. Et c'était bien dit ici, c'est que même si vous achetez la semence à temps, il faut la mettre dans un bateau qui pousse l'amener, si c'est un avion, et le temps que ça vienne, le temps que ça vienne, le temps que ça vienne sur le terrain. Donc, je pense aussi que madame, la meilleure solution, c'est
changer le message
que j'ai proposé ici, c'est que la semence soit produite localement.
Alors,
une fois que la semence est produite localement, nous aurons la facilité de commencer à temps.
Alors, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas assister le ministère de l'Agriculture pour qu'on arrive à produire localement ces semences?
Il a été dit ici que la pomme de terre n'avait pas la même importance que le manioc. Maintenant, ce sont des cultures qu'il faut promouvoir. Et dans le cas de la promotion de la culture, il faudrait maintenant monter des projets. Deux, qu'il y a peut-être l'argent pour essayer de financer la recherche. La recherche va maintenant on s'en va là. Mettre au point
des nouvelles variétés qui
sont adaptées.
Il devrait manquer le projet.
Oui.
c'est le ministère qui devait
monter. Le ministère de l'Agriculture, parce que la FAO, c'est pratiquement une
organisation d'appui.
Donc, si demain, docteur Ali Ramazani monte un projet, bien sûr, avec le ministère de l'Agriculture, vous, vous serez prêt à assister à l'événement
congolais? Je pense qu'il y a un projet même qui est en train de te montrer, qui a été soumis au niveau de Rome. Nous sommes en train d'attendre quelle sera la réaction au niveau de Rome, parce que vous savez, ça prend du temps. Le temps d'élaborer un projet, de chercher un partenaire pour le financement. Mais dès que le financement arrive, je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront faites.
Docteur Ali, c'est vrai qu'il y a un projet qui a été soumis au niveau de Rome?
Oui, madame, parce que vous savez, comme vient de vous dire M. Loutete, le projet HIP, au départ, la pomme de terre n'était pas programmée. C'était pour la production de légumes dans les zones urbaines, périurbaines, comme c'est dit là. C'est plus nous sommes d'aller vers Bazangungu, qui est une site, qui est le site où on produit des légumes à grande quantité. On a aussi remarqué que là aussi la pomme de terre était donc d'usage. C'est pourquoi on a essayé, donc le premier test était de voir comment on peut aller à susciter les gens. Parce qu'il y a une chose, les gens sont habitués à produire leurs petites pommes de terre, ce n'était pas facile ni gagner d'avance de leur dire de changer et de produire autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Alors il fallait ce test-là, le test a été concluant, maintenant on a monté le projet est soumis aux partenaires pour que nous trouvions comment faire la mise en œuvre. Parce que pour la production de semences, madame, il y a des équipements. Aujourd'hui nous disons que les pommes de terre qui arrivent, les semences de pommes de terre, sont dans un état de détérioration avancée. Même quand ça arrive, même si ce n'était pas la bonne période, on est obligé de donner aux paysans parce qu'il faut le mettre rapidement sous terre. Mais il faut alors, donc, dans ces cas, quand on va monter des projets, il faut des laboratoires, il faut des chambres froides, positives, négatives, pour garder les semences. Et donc,
une curiosité, monsieur le secrétaire général, parce que c'est un projet, on sait que dans un projet, il y a également la participation en termes de chiffres ou d'argent. Du côté de la RDC, vous aurez quelle part, en fait? Parce qu'avant de chercher les partenaires, il faudrait qu'on sache quelle sera la part.
Il
faut contribuer. La part de la RDC dans ce projet, ce sera de combien de pourcents?
Vous savez, monsieur le journaliste, jusqu'à présent, c'est ce que nous avons toujours crié et à haute voix que le budget.
Parce qu'il ne faut pas tout attendre de la FAO. La FAO peut
Il ne faut pas toujours avoir la même
chose.
Nous avons des projets qui sont en cours d'exécution, mais nous avons encore du mal à réunir le montant de fonds de compte et parties. C'est ça le problème. Donc, le jour que nous allons nous mettre, nous, à la hauteur, donc, de donner notre contribution à un niveau acceptable, nous allons aussi la possibilité de donner le choix de ce que nous faisons. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce sont les partenaires qui arrivent, donc chez qui nous soumettons des projets. Les projets sont acceptés. Ils participent presque à
99%. Voilà. Alors, nous avons Lambert Loutete. Vous avez suivi l'intervention de secrétaire général. C'est que même ce projet qui est soumis à Rome, vous n'avez rien à attendre de notre gouvernement. C'est qu'il faut que la FAO prenne la part du lion pour aider réellement les paysans à sortir de ce gouffre.
Vous le savez, je pense que la situation actuelle du pays est connue de tous. Mais dans tous ces projets-là, le gouvernement a sa part, comme la FAO aussi. Parce que vous devez savoir que tous ces personnels qui viennent, qui travaillent au niveau des projets, je pense que le gouvernement met l'infrastructure d'abord. Tout ce qui est importé, c'est le gouvernement qui facilite pratiquement le dédouanement sans taxe. Il y a pas mal de choses. En fait, ce sont des accords qui sont signés. Et quand ces accords de partenariat sont signés, je pense que chaque partie impliquée trouve son
compte. C'est d'abord plus curieux. Le projet, le début, c'est vraiment un monde merveilleux. Mais généralement, ça n'arrive pas à la fin. Le projet HUP, par exemple, c'est un projet qui a quelle échéance?
Bon, le HIP, vous devez savoir que ces activités ont commencé depuis il y a plusieurs années, mais nous allons des projets en projet. Et c'est vrai qu'un projet a eu un début et une fin.
Le pas laisser en cascade, parce que des fois, on quitte les paysans en cascade et puis on laisse.
Oui, mais un projet, comme je le dis, un projet, c'est souvent au niveau, par exemple, des exigences. Ce sont des projets tout au plus de 6 mois, rarement des projets de 12 mois.
Et que
pourquoi nous veillons sur la pérennité dans l'exécution de ce projet, nous tient à ce que l'agriculture, Donc, en fait, les solutions soient totalement impliquées. Mmh. De manière que même si le projet prend fin, mais au moins, l'instruction va continuer à œuvrer avec les paysans.
Mais curieusement,
c'est d'aller avec une bonne stratégie de mise en œuvre de ce projet. Comme ça, même si le projet prend fin, je pense que les actions peuvent continuer sur le terrain.
Oui, mais curieusement, il y a toujours des critiques hein, en ce qui concerne les projets de la FAO, hein, dans l'assistance aux paysans, parce que vous avez eu à distribuer les boutures saines de manioc, vous avez eu à assister les paysans qui cultivent Oui, vous avez eu, maintenant, vous avez entamé un nouveau projet, c'est le projet
avec les paysans.
Urbaine et périurbaine, avec les agriculteurs qui cultivent la pomme de terre. Et là, rien nous garantit que ça va aller de l'avant.
Je pense que je voulais le dire que dans la stratégie même, quand vous parlez par exemple de la multiplication des bouteilles de manioc, je pense qu'il y a des écoles qui ont été installées dans des projets appliqués il y a deux ans. Mais quand vous allez au plateau de Vatican, vous allez au niveau de Kinshasa, vous allez au Kasaï, par exemple, et nous venons de commencer dans le Bandundu, vous allez voir que les activités dans les champs écoles continuent, même sans les projets. Donc, ça dépend de la stratégie qui a été mise en valeur pour exécuter ces projets. Mais nous voyons, c'est vraiment une préoccupation. La pérennité des actions constitue une préoccupation au niveau de la FAO. C'est pourquoi la FAO ne travaille pas toute seule, mais la FAO travaille toujours en partenariat et implique les services étatiques qui sont là. De manière que même si le projet peut disparaître, mais les activités vont continuer.
On va voir comment cette nouvelle stratégie hein, développée par la FAO, c'est ça, hein, donnera des résultats positifs. On aura à revenir là-dessus prochainement avec vous. Hein. Comptez sur nous, on est en OTT, on s'arrête là. On vous dit en merci. Je remercie également Dr. Ali Ramazani d'avoir été des nôtres en tant que secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et à la prochaine.
Merci, madame.